بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour cette assemblée, ce majlis où on va parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la chose aisée de quitter sa maison et de se dire qu'on va parler du prophète alayhi salat wa sallam. C'est une amana, c'est quelque chose d'extrêmement lourd sur nos épaules. Et des fois on peut parler de différentes thématiques de la religion. On parle du tafsir d'un verset, on parle d'un hadith. On va dire qu'on reprend les explications des savants. Mais quand il s'agit de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de la meilleure des créatures d'Allah Rabbul Izzah, on se dit que, on se pose la question, est-ce que j'ai les qualités pour le faire? Et on se dit que, est-ce que je suis assez pur, épuré de péché? Est-ce que je suis en droit de parler de la biographie de notre prophète alayhi salat wa sallam? Tellement c'est quelque chose qui est, c'est tellement profond, c'est tellement puissant. Et nous demandons à Allah Rabbul Izzah de pardonner nos manquements, de pardonner mes manquements à moi en premier et les erreurs, les péchés de chaque personne de l'assemblée. Et que malgré ces manquements, que nous puissions profiter de ces informations, de ces éléments de la vie de notre prophète alayhi salat wa salam. Les derniers points qu'on avait vus avant les vacances, donc ça fait pas mal de temps, c'est shaqq as-sadri, l'opération de la poitrine. Et on a vu que, et juste avant ça, on a vu que depuis son enfance, notre prophète alayhi salat wa salam commençait déjà indirectement à accomplir des miracles. Il y avait des miracles qui se mettaient en place autour de la personne du prophète alayhi salat wa salam. Alors donc là on est arrivé à cet événement précis de l'opération de la poitrine. Et Allama al-Mubarak Fawri rahimahullah explique dans son ouvrage que après l'opération de la poitrine, la nourrice du prophète alayhi salat wa salam, qui s'appelait Halima al-Sa'diya, Halima al-Sa'diya a eu très peur. Elle a eu très peur pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle savait que cet enfant qui était sous sa responsabilité n'était pas un enfant comme tous les autres. Par rapport à tous les miracles qui se sont produits et la bénédiction extraordinaire dont elle a bénéficié, le jour où cet enfant était dans ses bras, elle a compris que c'est un enfant qui est source de rahmat, de bénédiction. Donc, par précaution, elle a été voir, et par honnêteté, elle a été voir la maman du prophète alayhi salat wa salam, qui s'appelait
Amina.
Les bons élèves, ils donnent les bonnes réponses avant les autres. Non, il faut être plus réactif. Elle a été voir Amina, la mère du prophète alayhi salat wa salam, pour lui dire que voilà, je te ramène ton enfant. Alors que une première fois, Amina devait reprendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Halima était tellement attachée à cet enfant, pas pour le côté financier aucunement, par rapport à tout ce qu'on a dit en termes de baraka, qu'elle a demandé, elle avait demandé à sa maman de garder encore un peu Muhammad alayhi salat wa salam. Après l'opération de la poitrine, elle va retourner à Nabi alayhi salat wa salam auprès de sa maman. Le prophète est âgé de 6 ans. À l'âge donc de 6 ans, il retourne auprès de sa maman. Alors que dans la tradition chez les Arabes, c'est bien avant que le nouveau-né est retourné auprès de sa maman. On a expliqué cette histoire de tradition d'envoyer les enfants dans le désert avec une nourrice pour les raisons qu'on a citées dans les anciens programmes. Mais bien avant l'âge de 6 ans, un enfant retourne auprès de sa maman. Mais là, c'est à l'âge de 6 ans que Nabi alayhi salat wa salam retrouve enfin sa maman, qui s'appelait comment ?
Amina.
Ah, c'est bien, comme ça, mashallah. Le prophète alayhi salat wa salam est heureux d'être auprès de sa mère. Et à un moment donné, là je vous cite donc un événement quand il était avec Amina, et on va voir que le temps qu'il a passé auprès de sa maman était très court. Et là nous allons voir que le prophète est extrêmement éprouvé. Subhanallah, il a 6 ans. Est-ce que vous imaginez le cœur d'un enfant de 6 ans? C'est plus petit qu'un point. Tu sais, des fois je le dis, je dis à des professeurs quand ils sont très sévères, ils crient sur les élèves. J'ai dit, première question, est-ce que tu as des enfants? Dis oui. Je dis, deuxième question, est-ce que tu sais c'est comment le cœur d'un enfant? C'est petit comme ça. C'est tout petit. Est-ce qu'il mérite autant de consignes, de recadrages, de reproches, de cris, de ainsi de suite? An-Nabi alayhi salatu wa salam a 6 ans et les épreuves ont déjà commencé avant sa naissance. Il naît yatim. Yatim qui veut dire orphelin. C'est dur pour un enfant de ne jamais connaître son père. Et donc là, à l'âge de 6 ans, il est enfin auprès de sa maman. Et là, sa mère, sa maman Amina, décide de rendre visite sur la tombe, le qabr de son mari, qui s'appelait comment ? Abdullah. On dit Muhammad ibn Abdullah. Elle va rendre visite et elle amène le prophète alayhi salat wa salam à cet endroit. Et je ne sais pas si on avait mentionné que la maman du prophète salam, elle était originaire de Madina. D'accord ? Elle va avec un Nabi alayhi salat wa salam à Madina, qui s'appelait comment à l'époque ? Masha'Allah, qui s'appelait Yathrib. Donc, elle va à Yathrib avec un Nabi alayhi salat wa salam pour rendre visite à son défunt mari. Et au retour, elle est dans un endroit qui s'appelle Abwa et elle va mourir. Elle va mourir dans le trajet entre Makkah et Madina. Et elle sera enterrée à cet endroit, à Abwa, qui est donc entre Makkah et Madina. Le prophète alayhi salat wa salam, qui a 6 ans, qui est orphelin, va voir sa maman mourir auprès de lui et sera enterré à cet endroit. Et il était en compagnie de Umme Ayman, qui était une des servantes de Amina, et elle va le ramener à Makkah. Dans un hadith, avant de voir le hadith, déjà on voit que le prophète alayhi salat wa salam va être éprouvé par la mort. Et l'épreuve par la mort, ça va l'accompagner durant toute sa vie. Entre son père avant sa naissance, entre sa maman, qui d'autre ? Sa tendre épouse, l'année de la tristesse, Khadija radiallahu anha, celle qui lui avait tout donné. Et avant tout, sa confiance et ensuite son cœur. Et par la suite, le décès de deux de ses filles. D'accord ? An-Nabi alayhi salat wa salam, depuis son enfance, est éprouvé par la mort. Et pour nous, c'est une leçon que lorsqu'Allah Rabbul Izza éprouve quelqu'un par la perte des proches, ce qui est cité dans la sourate Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Al-anfus, c'est le pluriel de nafs, la perte des proches. Ça fait partie des grandes épreuves. Parce que quand on perd quelqu'un, le cœur s'oriente et retourne vers Allah directement. La connexion avec Allah est immédiate quand quelqu'un perd un proche, et c'est un rappel qui est foudroyant parfois, mais qui est souvent efficace et qui nous permet de réaliser que ce dunya, cette vie, ce n'est pas ce que nous croyons, mais c'est une étape éphémère. C'est un moment et il y a un retour auprès d'Allah. Dans un hadith, il est cité que une fois, donc après donc la hijra, lorsque le prophète alayhi salat wa salam était à Madina, donc là on voyage un peu dans le temps, hein. Donc ça c'est un hadith qui pour moi c'est important de le citer. Le prophète alayhi salat wa salam a voulu rendre visite à la tombe de sa maman à Al-Abwa, et dans le hadith il est stipulé que le prophète s'est arrêté près de la tombe de sa maman. Il a pleuré, il a tellement pleuré que les sahaba dit, le thème du hadith est beau, hein, fabaka wa abka nas. Baka, qui veut dire pleurer, et Abeka, qui est sur le shem, Afa'ala, faire quelque chose, provoquer quelque chose. Le prophète, Baka wa Abeka Nas. Les sahaba, ils se sont tous mis à pleurer quand ils ont vu le prophète Sassam aussi ému. Et là, il y a tellement de leçons à retenir, mais on veut rester dans le déroulé de la sirah. Les savants disent que ça, c'était la grande tristesse. La grande tristesse du prophète, alayhi salat wa sallam. La perte d'une maman, c'est quelque chose qui est terrible. Je le dis là, comme ça, avec vous, parce que je ne l'ai pas vécu encore. D'accord ? Mais ceux qui l'ont vécu, ce sont eux qui sont les mieux placés pour parler, pour dire c'est quoi la perte d'une maman. Parfois, il y a des gens qui ont 70 ans, parfois nos parents même, qui vous parlent encore que quand leur maman, leur papa est décédé, on dit ben, Zamand, ça remonte à 50 ans, 60 ans. Non, c'est comme si c'est quelque chose qui reste gravé dans le cœur. Donc, notre prophète alayhi salat wa salam était avant tout un être humain, un homme avec un cœur, avec des sentiments et avec une immense tristesse. Mais jamais, durant toute sa prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a remis en cause ou en question la décision d'Allah que, qu'il n'ait jamais connu son père et qu'il ait perdu sa maman à l'âge de 6 ans. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, ça. On va dire même pour la stabilité psychologique d'un enfant, naître orphelin et en plus perdre sa maman enfant, 6 ans, c'est vraiment, c'est dans l'enfance, la phase où on commence à découvrir le monde et être en relation avec les autres. Et du coup, tout d'un coup, être coupé de son père et de sa mère, mais jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a remis en question ou ne s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'Allah a agi comme ça, ou si Allah m'avait laissé ma mère, peut-être que, et ainsi de suite. Ça, c'est une grande leçon à retenir en termes de istislam ou l'ilqawa'i wal qadr, en termes d'acceptation pour le destin. Ça c'est une preuve de iman, ça. Quand Allah vous envoie une épreuve, que vous ne remettez pas en question l'épreuve, que l'épreuve touche la mort, le décès d'un proche, la perte des biens, problème de la famille, problème de la santé. Allah nous protège de toutes ces difficultés. Il ne faut jamais se dire que peut-être qu'Allah m'envoie des épreuves pour que je devienne plus fort. Non, comme il dit, il y a un proverbe en arabe qui dit La tatamanna liqa al-adou. La tatamanna, c'est pas un hadith, hein? C'est pas un hadith. La tatamanna liqa al-adou. Ne souhaite jamais rencontrer l'ennemi. Ne fais pas le fier que oui, s'il y a ça, je vais résister. Non. Tu sais pas tes faiblesses, d'accord? Quoi qu'il nous arrive comme difficulté, la grande leçon à retenir, c'est que il faut jamais se demander, oh Allah, pourquoi moi? Non. Accepte. Quand on dit istislam, c'est tu acceptes ce qu'Allah a envoyé comme difficulté. Pas la malédiction qui est tombée sur toi. Oublions ces termes, hein. L'épreuve qu'Allah Rabbul Izzah m'a accordée. Et utilisons le terme accordée. Parce que l'épreuve, elle est toujours à la carte. Allah envoie une épreuve et elle est dosée par rapport à l'état spirituel, émotionnel, la capacité à gérer l'épreuve de chaque individu. Et ça, ça nous fait prendre conscience de la grandeur d'Allah. On est à 7 milliards aujourd'hui, ou 8 milliards, je ne sais pas combien on est. Allah connaît l'intérieur de chacun. Et je me posais la question hier, je me dis que, bah, subhanallah, des fois, vous savez, il faut se remettre en question. On expliquait ça dans le programme de Tafsir dernièrement, que le défunt, au moment de mourir, il repense à ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il a fait. Je me dis que bah, telle chose, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Puis je me dis que mais Allah, il connaît mon intérieur de A à Z, mieux que moi. Parce que nous sommes plus proches de l'être humain que la veine jugulaire. La métaphore, elle est puissante. C'est-à-dire qu'Allah est plus proche de toi que quelque chose que tu ne peux pas toucher et qui pour autant est vital. Et c'est magnifique les métaphores du Coran, d'accord? Oui, je me disais, oui, la remise en question de la foi, je me disais que Allah connaît mon intérieur, Allah, et ainsi de suite. Je me dis que, mais toutes ces personnes qui traversent la rue, qui sont des embouteillages et tout, ici, devant moi, ce que je vois, ce que je ne vois pas, en Asie, en Afrique, en Occident, en Orient et tout, toutes ces créatures-là, Allah connaît leur CV et leur parcours, leurs efforts, leurs manquements, leur avancée, leur fajr qu'ils ont eu, leur tahajjud qu'ils ont pu faire, leur qaza qu'ils n'ont pas pu remplacer. Allah connaît chacun d'entre nous. Et là, on se dit que c'est beaucoup trop fort pour moi. Bon, effectivement, c'est beaucoup trop fort pour toi. C'est tellement puissant. Ça, c'est notre Rabb, Al-Bari Azza wa Jal. Ben, quand tu... certaines façons réalise, parce que il fallait le savoir depuis tout le temps, quand tu réalises des fois la grandeur d'Allah, développe la crainte d'Allah, l'amour de ton Seigneur, avant tout la crainte d'Allah, et la honte de le désobéir, et la honte du visage que tu présenteras à lui le jour de Qiyama, au cas où si tu vas vers ton Seigneur ou quand il va t'appeler et que tu ramènes avec toi quantité de péchés. C'est cette prise de conscience qui est importante, qu'Allah nous l'accorde. Donc, notre prophète alayhi salat wa salam a pleuré. Et là également, il faut savoir que la maman du prophète alayhi salat wa salam, elle est née avant l'islam. Et donc, elle n'était pas dans le sirat al-mustaqim. Si elle est décédée, avant la prophétie. D'accord? Et là, le prophète, il n'a jamais dit que si seulement ma maman était toujours vivante quand je suis devenu prophète, elle avait lu La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, elle aurait été dans le Jannah avec moi, ainsi de suite. Là. Les savants disent que cet événement, ça fait partie de ce qu'on appelle Al-Qadha Al-Mu'lima. Les décisions d'Allah qui sont très dures. des décisions d'Allah qui sont très difficiles à accepter, qui font extrêmement mal. Extrêmement mal, comme ce père qui, mashallah, un enfant qui a 20 ans, 30 ans, il est dans la force de l'âge, il est en train de mashallah, de produire maintenant des efforts après des années d'études, et Allah reprend son âme. J'en ai connu, subhanallah, dans votre quartier même à Montreuil, subhanallah. Permettez-moi de citer son nom, Adisab. Des fois, je repense à Mufti Ilyas. Allah yarhamhu. Des personnes qui étaient dans la force de l'âge en train de faire un bon travail. Allah reprend cette personne. Ça fait partie des épreuves qui sont très, très, très difficiles. Il n'y a rien, quelqu'un m'a dit, il n'y a rien de plus lourd que le janaza de ton fils. Allahu Akbar. Il n'y a rien de plus lourd, de plus terrible que de porter le corps de ton fils et de l'enterrer. C'est plus dur que d'enterrer ton père et ta mère. Parce que la relation n'est pas pareille. D'accord ? Je ferme cette parenthèse. Mais je veux dire que même dans cette situation extrême, le prophète, et il sait que quelle est la destinée de sa mère, mais le prophète alayhi salat wa salam n'a jamais remis en question le décret divin. Et ça, pour nous, c'est une grande leçon. Parce que là, on touche de quelque chose de vital. Sa propre mère, la hidayah, l'accès au jannah, c'est des choses vitales. Mais le prophète alayhi salat wa salam n'a jamais fleuri son esprit. Pourquoi est-ce qu'Allah a décidé ? Donc pour moi, quand il m'arrive des petites difficultés, des épreuves, ne remets pas en question le décret de ton Seigneur Azza wa Jal. On continue. Après donc le décès de sa mère, le prophète, je reprends, il a 6 ans, notre prophète alayhi salatu wassalam va être confié à qui ? Il va être confié à son grand-père Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, c'était le sage de Mecca. C'était le référent de Mecca. C'était l'homme le plus respecté pour la noblesse de sa lignée. Et vous savez que chez les Arabes, la lignée, c'était, il y a rien de plus, c'était plus important que l'argent. La lignée, à quelle famille tu appartiens, de qui tu descends, ça c'était aham shay. D'accord ? Et donc, Abdul Muttalib va accueillir son petit-fils, alayhi salatu wassalam. Et Al-Allama Al-Mubarak Fawri, il dit que, je le lis comme le livre, j'ai la chance d'avoir le guide déjà traduit en français, il dit que sa compassion pour son petit-fils orphelin augmenta au point qu'il fut avec lui d'une douceur que jamais il ne manifesta à aucun de ses enfants. Il a aimé Mohammed alayhi salat wa sallam, son petit-fils, plus qu'il n'a aimé ses propres enfants. Et les ulama disent que c'est là aussi quelque chose de miraculeux. Ça fait partie des miracles indirect, que le prophète n'a pas fait de lui-même, mais qui transite et qui gravite autour de sa personne bénie. Le prophète, alayhi salat wa salam, provoquait chez chaque personne qui le voyait un élan d'attachement et d'affection. Toutes les personnes qui le voyaient éprouvaient un amour et un respect profond et une grande considération pour cet enfant, qui est encore un enfant. Et c'est pour ça qu'Abdul Muttalib, un ancien, un dur, Zu'ama Quraysh, celui qui a osé aller défier qui ça, là, on n'a pas parlé de ça ici. Mais c'est là, on revient à la sirat. Je vous donne un indice. Si vous trouvez, on s'arrête à 22 minutes. Autrement, on va à 50 minutes. C'est le seul qui a osé aller défier ce tyran qui a tenter de détruire la Kaaba, ça nous ramène à Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Comment est-ce qu'il s'appelait ? Il a dit déjà Abraha. Abraha, avec son armée d'éléphants, avec la puissance qu'il avait, Abdul Muttalib, tranquille, il va le voir, il dit : ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien ça. Et il dit : qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu as l'air d'être quelqu'un de noble, d'important, et quand Abraha a vu Abdul Muttalib, il a été saisi par le charisme de cet homme. Vous savez, Allah Rabbul Izzah a envoyé le prophète sallam avec des parents et des grands-parents, une lignée extraordinaire. La lignée la plus respectée de toute la péninsule arabe, qui faisait l'unanimité quant à la noblesse du prophète alayhi sallam. Donc Abdul Muttalib, il y avait déjà quelque chose d'extraordinaire qui se dégageait de lui, un charisme, une lumière, une puissance, et Abraha était stupéfait. Et il était admiratif de la personnalité de Abdul Muttalib. Et là, il a demandé, je m'écarte du sujet, je suis désolé. Et là, il demande à Abdul Muttalib, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il pense que Abdul Muttalib allait lui demander de ne pas détruire la Kaaba, que ça c'est la maison d'Allah, c'est sacré pour nous les Arabes, il ne faut pas le faire, ainsi de suite. Abdul-Muttalib lui a dit, les chameaux, ça c'est à moi ça, faut que tu me rendes mes chameaux. Et là, Abraha dit, j'avais beaucoup d'estime pour toi quand je t'ai vu. Je pensais que tu étais quelqu'un de noble, de sage, mais tu me demandes les biens de ce monde, c'est que ça que tu veux? Je croyais que tu allais demander la protection de ta cité, la terre de tes ancêtres, la Kaaba qui remonte à Ibrahim alayhi salam. Tu demandes tes chameaux. Tu es aussi terre à terre, aussi mondain. C'est moi qui redis, hein, d'accord? Et là, c'est toute la sagesse, pardon, toute la sagesse de Abdul-Muttalib. Et si on utilisait un langage moderne, on aurait dit qu'il l'a clashé, mais grave. Avec tout le respect. Il lui a dit que ces chameaux-là, ça c'est à moi. Je suis responsable de leur bien-être. Cette Kaaba que tu veux détruire, elle a un maître. Son maître c'est Allah. Et Allah va s'assurer de sa protection. Subhanallah. Quwwatul yaqin, conviction en Allah. Ça c'est la maison, Baytullah. Personne n'y touche pas. Et Allah a envoyé les oiseaux à la Babil et ainsi de suite. Comme... Donc, Abdul-Muttalib, c'est vraiment un monument à Mecca. Son cœur va fondre devant cet enfant de 6 ans et il va s'occuper de lui plus qu'il ne s'est jamais occupé de ses propres enfants. Je vais terminer avec une histoire, une anecdote. On en a combien de temps là? 23 minutes. Donc. Je respecte ma parole comme le cheikh a trouvé la bonne réponse. Il dit qu'Allama al-Barakfouri, il le reprend d'Ibn Hisham. Ibn Hisham, c'est un des grands narrateurs de Sirat, un des grands Mouabikhin. Malheureusement, sa Sirat n'a jamais été traduit en français. Ça viendra, peut-être qu'un jour des gens le feront. Donc Ibn Hisham dit que Abdul-Muttalib avait une, bon, la traduction est un peu approximative, il avait près de la Kaaba un tapis, un emplacement qui lui était réservé. C'était un emplacement honorifique. C'est uniquement Abdul-Muttalib qui avait le droit de s'asseoir à cet endroit en face de la Kaaba. Et personne d'autre, que soit Quraysh ou encore moins non Quraysh, même ses propres fils n'ont jamais osé s'asseoir à cet endroit. Et si quelqu'un osait venir, il le chassait tout de suite. Parce que ça, c'était la place du boss. C'était la place du chef. Instinctivement, Mohammed alayhi salat wa salam, quand il venait près de la Kaaba, 6 ans, et il allait s'asseoir là.
Là où il ne faut pas.
Là où il ne faut, ou là où pas il ne faut pas, où personne n'a jamais osé s'asseoir. C'est Allah qui guidait son petit cœur pour aller à cet endroit. Parce que c'était symbolique. Ça prouve qu'est-ce qu'il allait devenir un jour. Et les Mouarikhin en commentaire disent que le fait que le Prophète Salam petit s'asseyait à cet endroit, c'était pas par, on va dire, par, c'est pas un esprit d'enfant insouciant. C'est pas parce que c'est un enfant, il comprend pas, il s'assoit là. C'est pas non plus, astaghfirullah, une question d'orgueil, de vanité, je veux être. Non, il était encore trop petit pour penser à tout ça. C'est son cœur qui le guidait pour aller s'asseoir à cet endroit. Et quand, et les Quraysh, les premières fois, ils étaient choqués de voir quelqu'un d'autre s'asseoir là. Et ils voyaient Abdul-Muttalib venir auprès de Mohammed, son petit frère, et caresser son dos. Et le laisser s'asseoir à cet endroit. Et tout le monde comprenait que cet enfant-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ils vont comprendre c'est quoi ce quelque chose. Ils vont le comprendre, le découvrir plus tard. J'aime bien ce qu'il dit, Moubarak. Il le prenait près de lui, passait sa main sur son dos et était toujours satisfait de ce que le jeune enfant faisait. Ce qui n'est pas le cas des parents. Le papa, on a toujours quelque chose à redire à notre fils. Pour les filles, non, hein? Hein, Tonton Ibrahim? Les filles, c'est quoi? Tonton Ibrahim, c'est Djalébi, cool de ses veines. Et donc, avec les filles, c'est différent. Hein? Et bien, avec le garçon, je ne sais pas, après, il faut une analyse, une psychanalyse ou autre chose. Il y a peut-être une relation d'opposition et ainsi de suite, et où on veut que l'enfant fasse mieux que nous, mais en même temps qu'il ne se la raconte pas trop, et qu'on est perfectionniste dans les attentes, et qu'on veut vraiment qu'il soit meilleur que nous. Et lui, l'enfant a souvent d'autres objectifs et d'autres projets, je voulais dire. Et donc, on est déçu. Bref. Très souvent, les papas font la tête à leur garçon. Parce que voilà, ouais, on aurait pu mieux faire, ça, c'était pas comme ça, il fallait machin, et ainsi de suite. Il y a toujours un truc à redire. Mais ça, c'est le comportement historique, hein. naturel d'un père. Donc, rassurez-vous, qu'on se rassure, on n'est pas mauvais, c'est naturel, hein, d'accord? D'accord? Mais on peut s'améliorer. Mais Abdul Muttalib, quand il voit le prophète Hassan, il n'y a jamais reproché quoi que ce soit. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, Abdul Muttalib le validait. Et alors qu'Abdul Muttalib, c'était une terreur à Makkah. C'était vraiment le, comme on dit, Zaim Makkah, c'est le, celui qui contrôle, qui a Makkah dans ses mains. Quelqu'un comme lui, il a toujours accepté toute décision et toute parole du prophète alayhi salat wa salam. On va compléter, parce qu'après il y a, ben non, il faut dire que, donc 2 ans plus tard, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète salam, va quitter ce monde aussi. Allah va reprendre son âme, le prophète alayhi salat wa salam est maintenant âgé de 8 ans. 8 ans, il a connu le deuil de son père, qui est mort avant sa naissance, le deuil de sa maman à l'âge de 6 ans, le deuil de son grand-père qui était devenu comme un papa pour lui, son protecteur à l'âge de 8 ans. Ça fait beaucoup, hein. Ce sont de grandes... Allah a éduqué le prophète alayhi salat wa salam depuis son enfance pour qu'il connaisse des difficultés et qu'il arrive à orienter son cœur vers Allah. Et il orientait son cœur vers Allah avant même de devenir prophète. Là, on passe un peu les étapes. Lorsqu'il allait méditer dans la grotte de
Hira.
Avant là, la prophétie, où il cherchait ce lien avec Allah Azza wa Jal. Il l'éleva parmi ses propres enfants et le préféra même à ceux-ci. Abou Bakr pour lui dit, c'est la même chose. Celui qui est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend que c'était un enfant extraordinaire et son cœur est pris d'amour pour son neveu. Alayhi salatu wa salam. Il dit qu'il était avec lui d'une telle amabilité et lui voit un respect pour un enfant de 8 ans qu'il ne réservait à aucun en dehors de lui, c'est-à-dire même des adultes. Parce qu'après le décès d'Abdul Muttalib, c'est Abu Talib qui prend la relève et qui devient le référent à Mecca. Et la différence, le prophète est resté combien de temps avec sa maman? 2 ans. Combien de temps avec son grand-père?
6 ans.
6 ans à 8 ans. Avec Abu Talib, ce sera différent. Il va rester avec son oncle Abu Talib pendant 40 ans. Barak dit pendant plus de 40 ans, Abu Talib, c'est-à-dire Abu Talib sera vivant, hein, je veux dire, dans le sens, il est vivant, 40 ans. Abu Talib, pendant ses 40 ans, apporta à son neveu soutien et protection, prenant toujours parti pour lui. Une des sagesses divines, c'est que pourquoi le prophète ne pouvait pas rester, ne restait pas longtemps avec la même personne, pour que jamais quelqu'un ne puisse émettre donc cet avis, il a été embrigadé d'une certaine façon par ses parents quand il était petit. Ils ont essayé de le convaincre que c'est lui le futur prophète chez les Arabes, pour que personne, aucun adulte n'ait d'influence sur lui, ni son père, ni sa maman, sachant qu'il est resté très peu avec sa maman, ni son grand-père, que 2 ans. C'est-à-dire que le prophète a grandi de façon, on va dire, neutre. Personne n'a eu d'influence sur lui. Et donc là, il est avec son oncle Abu Talib. Et là, je vais réellement, cette fois-ci, clôturer et compléter par un événement qu'on avait juste rappelé une fois, il y a un mois ou deux. Et là, qui montre encore le caractère prophétique qui se dessinait chez Mohammed alayhi salat. Je lis... Ibn Asakir qui rapporte que je m'étais rendu à la Mecque lors d'une année sans pluie. Il y avait une année de sécheresse. Et les Quraysh ont dit, vous savez, quand vous habitez dans le désert et que vous vivez des animaux, que vous amenez paître et tout, et des récoltes, si il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, sécheresse égale, c'est la famine, c'est la mort. D'accord? Donc, il dit que les Quraysh ont été voir Abu Talib, qui était Sapou, qui était le référent. Oh Abu Talib, la vallée est devenue aride et les enfants souffrent de la disette. C'est terrible, ça, qu'Allah nous protège. Hein.
Amen.
De voir nos enfants qui n'ont pas assez à manger ou à boire. Le simple fait de dire ça, ça crée une déchirure dans le cœur. Alhamdulillah, nous, une famille, il y a, mashallah, à manger, il y a tout ce qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants de se montrer reconnaissant, choukr, pour ce que nous avons. D'accord? Et Allah nous protège d'un retrait des ni'amas, des bienfaits, d'accord? Qu'Allah nous protège. Donc, il dit que les enfants souffrent de la disette. Il dit que, oh Abu Talib, prie Dieu pour qu'il descende la pluie. Ils ont dit, demande à Allah. Ça, on a déjà parlé de ça. Hein? Les Arabes croyaient en Allah. Hein? Ils invoquaient Allah. Mais ils invoquaient Allah dans la difficulté. Dans la difficulté, ils invoquaient Allah. Mais quand Allah leur avait envoyé son aide, ils revenaient vers leurs idoles. D'accord? Donc, prie Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Abu Talib sortit alors en direction de la Kaaba, accompagné d'un jeune garçon. Quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? 8 ans. Pas qu'Abu Talib, tu vois les anciens, ceux qui sont de... Non, cet enfant, parce que cet enfant, il est spécial, il est puissant. Il y a quelque chose qui se dégage de lui. Il prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la main. Et je n'ai pas le texte en arabe, là, je le dis malheureusement, parce que ça doit être très beau. Il dit, un jeune garçon aussi beau qu'un soleil couvert, ayant déchiré le voile sombre des nuages. En arabe, ça doit être majestueux. Mais je n'ai pas amené la version en arabe. Entouré de quelques enfants. Abu Talib prit le prophète alayhi salat wa sallam. Il dit, il fit adosser l'enfant au mur de la Kaaba. Il a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis contre la Kaaba. Et le prophète alayhi salat wa sallam leva sa main vers le ciel. Il dit qu'il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Vous savez, vous voyez c'est quoi l'été Makka. Quand on dit qu'il n'y a pas de nuage, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on dit qu'il n'y a pas de nuage, c'est khalas, mafi. Il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas d'ombre. Allah musta'an. Il n'y avait pas, je reprends, il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Mais soudain, quand Al-Nabi alayhi salam, il a 8 ans, il faut garder ça à l'esprit. Il a 8 ans, qui c'est qui a 8 ans ici? Non, il n'y a pas d'enfant ce soir, d'accord? 8 ans, c'est peut-être l'âge de vos enfants. Il a levé la main vers le ciel et dit que soudain, des nuages surgirent de tous les horizons. Mubasharatan, immédiatement, le ciel s'est rempli de nuages. Et la pluie tomba et toute la région et tomba à un tel point que toute la région se couvrit de verdure. Vous savez que dans le désert, s'il pleut un jour ou deux jours, le désert devient vert. Ça vous est peut-être arrivé des fois. Faites la route Makkah-Madina, tout est vert. Allahu Akbar, kaif. Il a plu. Vous faites cinq jours après, vous revenez, il n'y a plus rien. Parce que le soleil a déjà tout détruit. Mais voilà, la verdure, elle vient après un jour ou deux jours de pluie. Donc, il y a eu tellement de baraka que toute la région se couvrit de verdure. C'était une situation qu'Allah a créée pour que les Quraysh voient de leurs propres yeux que cet enfant est miraculeux. C'est un enfant qui est porteur d'une grande rahma. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de comprendre ces quelques paroles. Et que, c'est quoi l'objectif? Que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pénètre nos cœurs. Ça c'est aham shay. Le but, ce n'est pas d'écouter des histoires, des récits. Ouais, j'ai entendu ça, c'était beau. Non. Que l'amour du prophète pénètre mon cœur. Et si l'amour du prophète pénètre mon cœur, quel est l'objectif avec ça? Suivre ça, sa sunna. Faire tout comme lui. Et quand on dit faire tout comme lui, là, ça ne se limite pas au thawb. Ça ne se limite pas, je m'habille comme ça, j'ai ma barbe qui est comme ça, je me parfume comme ça, je viens à la mosquée. C'est bien ça. Tout ça, c'est très bien. Ça fait partie des facettes de la sunna. Non. Imiter le prophète sallam, c'est dans toutes les situations de la vie. Agis avec ton épouse comme le prophète sallam agissait avec ses épouses. Ça, c'est pas facile. Agis avec tes enfants comme lui le faisait. Agis avec tes travailleurs comme lui le faisait avec ceux qui étaient à son service et ainsi de suite. Agis avec tes ennemis comme le prophète sallam le faisait avec noblesse de caractère. C'est tout ça. On appelle ça at-ta'assi. Bin Nabi alayhi salat wa salam, suivre l'exemple prophétique. Donc ça c'est un premier objectif. Et deuxième objectif, c'est de voir sa réaction dans toutes les situations de sa vie, voir sa grandeur d'âme et son lien avec Allah pour que nous inspirons de ce comportement prophétique. Et là on a vu essentiellement les situations d'épreuve, la réaction présente des situations d'épreuve, l'acceptation et le fait qu'il ne revenait jamais sur ce qu'Allah avait décidé. Qu'Allah Rabbul Izzah remplit nos cœurs de ses leçons de sagesse et pardonne nos manquements. Malgré nos péchés de ce matin, de cet après-midi, de ce soir, nos erreurs, nous ne sommes pas dignes de cette assemblée, mais malgré ça, Allah nous accorde les bénéfices de cette assemblée. Puis je vous annonce une bonne nouvelle. Vous voulez une bonne nouvelle? Vous pensez que je vous dis à quoi, là? Qui a été sélectionné en équipe de France et tout? C'est pas mon truc à moi. Un bon Biliani? Non. C'est une nouvelle qui est plus importante que ça. La bonne nouvelle, c'est que quand on va se quitter, tous nos péchés seront pardonnés. Hadith, c'est pas moi qui décide, hein, je crois ça. nous rappelle le hadith que, vous savez, tout ça, de les assembler où les gens, ils sont là sincèrement pour Allah, comme nous. Il y a rien à gagner. Je vais pas vous donner des trucs à la fin. Allah, ça. Peut-être, tu as encore des chocolats? Tu veux encore? Et peut-être, mais je sais pas. On n'est pas là pour quoi que ce soit. On est là pour Allah, pour notre iman, pour essayer de travailler quelque chose intérieurement. Le problème dit que, je clôture rapidement, quand il y a ce genre d'assemblée, il y a des malaïkas qui viennent. Et qui viennent, ils sont tellement contents. C'est jusqu'aux cieux. Ils s'amassent, ils s'amoncent jusqu'aux cieux, et disent, oh Allah, dans tel endroit, l'île de la Réunion. Il y a une photo de la nouvelle satellite, là, je sais pas comment il s'appelle, qui découvre des choses incroyables. Le nouveau satellite qui fait des photos incroyables, là. Vous savez de quoi on parle, hein. Ils ont pris une photo de centaines de galaxies qui n'avaient jamais été découvertes. Quand on dit galaxie, c'est pas une planète, hein. Galaxie, c'est avec un soleil, un système. Et là, on se dit que Allahu Akbar, la création d'Allah, elle est immense. Donc, je reviens à ce que je disais. Allez, on reste le machin. Les malaïka, ils disent, oh Allah, à cet endroit. Et donc là, je voulais parler de la galaxie, comment la création, elle est immense. Et là, on parle de le système solaire, on parle de la planète Terre, de la Réunion. C'est une goutte d'eau, même pas. Et il dit que, ya Rab, à cet endroit, il y a des gens qui sont réunis pour ta cause, parler de Jannah, parler du paradis, et qui recherchent ton contentement, qui demandent protection contre ton châtiment. Allah Rabbul Izzah dit à ses anges, je vous prends en témoin qu'à l'issue de cette assemblée, tous leurs péchés ont été pardonnés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le hadith le plus connu, ça. Il y a une autre bonne nouvelle. Vous la voulez tout de suite? Et là, on passe au hadith du Musnad d'Imam Ahmed. Il dit que, dans sa version à lui, que les péchés, on parle bien sûr de, quand c'est pardonné, c'est les petits péchés qui sont pardonnés. Mais c'est déjà énorme que les péchés de ces personnes sont transformés en bonnes actions. Karam! Karam! Karam d'Allah! Générosité de notre Seigneur. Tout ça, quwwatul yaqin, conviction que c'est ce qu'Allah m'accorde à l'issue de cette assemblée. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.